Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h08, de retour dans les grandes gueules du sport. On est ensemble jusqu'à midi, comme tous les samedis, tous les dimanches. Christophe Cessieux, Marion Bartoli, Fred Weiss, Jérôme Pinault. 11h45, le 32-16, c'est votre mot d'ordre. Pour vous les auditeurs, vous êtes vous aussi des grandes gueules. Vous n'êtes pas d'accord avec ce qui s'est dit ce matin dans le studio RMC. Eh bien, vous venez nous le dire en face. 11h30, le débat caché. Les GG ne savent rien et pourtant, elles vont devoir débattre. Mais de quoi ce matin? Hier, on a parlé d'Eddy Merckx, qui avait dit que Pogacar était largement au-dessus de lui. Je vous ai préparé quel débat ce matin? Quel est votre sentiment? Quel est votre avis, Jérôme Pinault?
Je pense que tu vas nous parler de Luis Enrique qui défend encore une fois ses joueurs et qui explique qu'on comprend rien et qu'on peut pas toucher à Donnarumma. Je pense que tu as envie de nous parler de ça.
Lâcher Donnarumma, c'est ce qu'il a dit hier en conférence
lâchez-le,
de presse.
Lâchez-le.
Ok.
Mais qui, dans le même temps, ne s'excuse pas auprès de Margot Dumont de son comportement inacceptable le mardi soir.
Oui, mais Christophe.
C'est-à-dire, je donne des leçons, mais surtout toi, quand on m'en donne.
Toi non plus, tu peux pas comprendre.
Voilà. Tu peux pas. Marion, c'est quoi le débat caché?
Est-ce que Barcola est meilleur qu'Mbappé? Non, peut-être que tu vas nous parler de la décision de l'équipe de France de rugby de ne pas réintégrer, ce qu'on a parlé hier, Oradou en équipe de France
et
Jégou, tant qu'il n'y aura pas un non-lieu définitif et une décision définitive prononcée par la justice.
Exactement, Hugo Oradou qui a pu reprendre hier avec Beau et ça a été l'un des débats hier, l'un des débats évidemment, je vous propose d'aller le réécouter en podcast, un peu chargé en émotion ici dans le studio RMC. Fred Weiss.
Alors j'ai vu que Jérôme Pinault était dans le studio et je me suis dit on va parler d'Annie Hidalgo qui se bat bec et ongle pour conserver les anneaux olympiques, même contre la famille Eiffel, ça refait polémique. Je me dis que ça pourrait être intéressant.
De toute façon, c'est ça ou Lance Armstrong avec Jérôme Pinault pour mes débats cachés parce que je sais que ça fonctionne. Peut-être, on verra.
On l'a salué,
Christophe,
on l'a salué.
Une proposition.
Non, mais je pense effectivement, tu vas peut-être revenir sur le rugby parce que.
Comme Marion.
Ouais, une suite au débat d'hier avec La Rochelle qui, dans le même temps, a dit que tant que Jégou n'obtiendra pas de non-lieu, il ne jouera pas.
Ce qui est logique
l'équipe
comme
de France,
décision.
C'est la même chose. Il y a que Pau.
Et
Pau,
oui.
C'est des résistants. Ils sont contre le système établi.
Denis.
En même temps, est-ce que vous avez déjà pris le train pour Pau?
Non.
Non pour Pau. Alors,
on a eu des problèmes.
J'habite à Limoges, donc tu as Pau, Limoges.
Merci, il y en a qui ont essayé. Merci, elle avait la référence, Marion.
Ouais.
Chers auditeurs, je vous propose un magnifique cadeau à gagner ce week-end dans les grandes gueules du sport. Vous allez pouvoir remporter aujourd'hui un séjour d'une semaine au domaine skiable Les Cibelles, au cœur des Alpes, avec Goélia, résidence et club de vacances pour 4 personnes. Forfait inclus pour remporter ce séjour inoubliable. Ça se passe maintenant. Hein. Vous envoyez ski au 732-16. Ski au 732-16. Le grand gagnant sera avec nous en fin d'émission dans une trentaine, quarantaine de minutes. Donc vraiment, jouez ski par SMS au 732-16. Ça peut vous aussi vous arriver pour vos vacances de ski pour 4 personnes. Lao Tzu a dit un jour, qui domine les autres est fort, qui se domine est puissant.
RMC.
Les grandes gueules du sport passent la seconde.
Tu bluffes, Martini? Il bluffe?
Pas sûr. Dans la côte de Witikon, eh bien, Tadej Pogacar a décidé de secouer le cocotier et de faire peur à 100 km déjà, à peine, je veux dire, de l'arrivée à toute la concurrence.
Si, il bluffe là, ça se voit tout de suite.
On est à 86 km de l'arrivée et Pogacar est en tête de la course, tout simplement.
T'as pas l'air de bluffer là quand même.
Si, il bluffe là.
Nous avons désormais 17 hommes qui sont en tête avec Pogacar légèrement détaché mais qui est en train de se faire reprendre.
Tu bluffes, Martini? Ton arme n'est pas chargée.
Tadej Pogacar qui effectivement a fait exploser le reste de l'échappée.
Peut-être qu'il bluffe, hein, peut-être qu'il avait qu'une seule balle.
Il se met la main devant la bouche, le coude sur le genou, d'un air de dire je n'en reviens pas. Quelle journée pour Tadej Pogacar. Il a éparpillé la concurrence à 100 km de l'arrivée et au terme d'une échappée en solitaire de 51 km, il est sacré champion du monde 2024.
Je vais voter, il bluffe pas. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins.
Il y a lui et les autres, il y a le roi et les valets. Pour sa première sortie avec le maillot arc-en-ciel hier, Tadej Pogacar a encore détruit ses adversaires et remporté le Tour d'Émilie. 6 jours après son raid fantastique de 100 km aux Mondiaux, vous l'avez entendu, le champion slovène a cette fois-ci lâché ses derniers rivaux à 37 km de l'arrivée. Qui dit mieux? Pogacar a signé sa 24e victoire de l'année. Bon, à un moment donné, on a arrêté de compter, hein, mais on pense que c'est autour de la 24e victoire de l'année. En 56 jours de course. La musique qui fout les jetons. Et cette question. Pogacar est-il en train de tuer l'intérêt des courses? Oui ou non? Christophe Cessieux.
Oui.
Jérôme Pinot.
Non.
Fred Weiss.
Non.
Marion Bartoli.
Non.
Il y a du non, mais il y a quand même du oui avec Christophe. Avant de débattre, on va retrouver la voix du cyclisme sur RMC. Arnaud Souk. Bonjour Arnaud.
Salut les amis.
C'est vrai que Pogacar a écrasé encore une fois la concurrence. On peut le dire, il aura tout fait cette année.
Des attaques de loin, des victoires pleines de panache, des stratégies surprenantes, comme lors des championnats du monde, on l'a entendu, où à 100 km de l'arrivée, Evenepoel a décidé de ne pas suivre Pogacar pensant que son attaque était
juste. Dans quelques instants, il y a un petit son qui est assez catastrophique. On revient évidemment, tu vas nous raconter cette saison mémorable de Pogacar. On commence ce débat avant de retrouver Arnaud Souk. Pogacar est-il en train de tuer l'intérêt des courses? Je sens, il lève la main comme un enfant.
Arnaud était en train de nous expliquer du championnat du monde. Et de là, déjà, quand on est observateur affûté comme Christophe, on ne doit pas pouvoir parler de championnat du monde comme une domination de Pogacar. On doit d'abord parler d'une énorme faute tactique de ses adversaires. Une énorme faute tactique. Déjà, on doit commencer par ça. Quand tu es l'ultra favori d'un championnat du monde, au même titre que Tadej Pogacar, et qu'il y en a un, ils sont trois, les mecs.
Oui.
Trois favoris. Il y en a un qui attaque, tu ne le suis pas.
Oui.
Au moment de la course où ils sont
loin. Est-ce que
justement, Jérôme, le fait qu'ils soient si dominateurs dans toutes les courses auxquelles ils participent n'a pas fini par casser la résistance de ces adversaires?
Pas avec ces gens-là, Christophe, Evenepoel
et Van Der Poel, mais ils se disent... Alors déjà, il y a deux analyses. Soit ils se disent, il est trop fort, on n'y va pas.
Mais non.
Soit ils se disent, il va se tuer tout seul et on le récupérera plus tard.
Et soit ils évoquent, on était en surnombre encore, et on était mal placé.
Oui.
Mais t'es malade. C'est une faute professionnelle. Moi, je peux te dire un truc, c'est que si Julien Alaphilippe n'avait pas chuté, il y a au moins une chose qui est sûre, au moins une. C'est qu'il était calé dans la route Pogacar.
Oui, je te dis pas calé pendant combien de temps?
Ah bah voilà.
Tu as vu les mecs qui s'accrochaient à ça?
Non mais ils tiennent
50 100 mètres, 200 mètres, ils explosent comme du popcorn.
Je vais me battre aujourd'hui contre une chose que les gens qui me regardent dans les yeux et me disent Pogacar. Parce que c'est contre ça qu'il faut qu'on lutte. Parce qu'il n'y a plus personne qui croit. Parce que derrière tout ça...
Tu me dis qu'il est dopé?
Mais tout le monde me dit ça. Évidemment, le grand public dit
ouais,
c'est pas possible.
Oui, non, mais, ça,
mais déjà,
le vélo.
Ses adversaires courent comme des débiles, oui.
Autre comparatif. Moi, je le compare en ce moment à ce qu'a fait Verstappen pendant deux ans.
Et ce que faisait Nadal à Roland Garros.
Mais c'est ce qui a créé Djokovic.
Et ce qu'a fait Merckx pendant 10 ans, où il dominait la tête et les épaules. Eddy Merckx à l'époque,
la domination dans le sport.
Mais ça aide à faire progresser les autres.
Il tuait les courses et surtout, il était détesté par l'ensemble du public. Quand il arrivait sur une course française, on entendait des Ah bah merde.
Bien sûr, il a pris un coup au foie
au Puy de Dôme par un spectateur.
Bien sûr.
Je me rappelle un commentateur français qui, après une victoire d'Eddy Merckx, il dit Merckx, encore Merckx, toujours Merckx. Oui, et ben il tuait l'intérêt pour les courses, parce que chaque fois qu'il était au départ d'une course, on savait qu'il allait gagner. C'est un peu la même chose avec Pogacar, et c'est pas bon pour l'intérêt d'un sport.
Je vais faire la comparaison
avec Verstappen. Pendant quelques années, la Formule 1 était remontée au sommet de la vague parce que il y avait la guerre, il y avait la rivalité.
On a fait des débats en début d'année. Verstappen est-il en train de tuer la F1? Tout le monde voyait Verstappen tout gagner. Dans le sport, tu sais pas.
Ça change
aujourd'hui dans le sport. Je sais pas, mais parce que là, effectivement,
t'as des écuries
qui sont mises à travailler. Là,
et puis les autres équipes, elles vont travailler aussi.
Autour d'Emilie hier, tu savais qu'il était au départ, tu savais qu'il allait gagner. Parce que de toute façon, il est en mission.
Mais c'est
le meilleur coureur du monde et les mecs ne croient plus en leur chance.
Mais c'est même pas ça.
De pouvoir l'attaquer.
C'est le meilleur coureur hier. Alors, c'est là où je voulais en venir et c'est les observateurs malveillants qui mettent ça en avant. Il a encore une fois gagné. Mais Tadej Pogacar, c'est l'un des meilleurs coureurs de l'histoire du cyclisme.
Mais moi, je veux pas aller sur l'histoire du
cyclisme. Le deuxième hier, c'est Tom Pidcock. Il lui arrive pas à la cheville. Il lui met deux minutes, mais c'est normal sur une course si difficile que ça. Et faut pas qu'on prenne l'argument à chaque fois pour ressemer cette espèce. Je n'ai aucune certitude de ça.
Mais c'est pas du tout
ce que je sais. C'est que ce qu'il fait avec un maillot de champion du monde sur le dos hier, moi, ça me fait plaisir. J'adore voir ça.
Voilà. Mais moi aussi, j'adore le voir. Bon, ok.
Et ben justement, vous allez pouvoir en parler dans quelques instants. Arnaud Souk est donc avec nous. Arnaud, tu étais en train de nous conter cette année folle de Pogacar.
Oui, et je revenais hein, surtout sur le fait quand même que Evenepoel avait décidé de ne pas le suivre pendant les championnats du monde. Il avait pensé que, il a dit après la course d'ailleurs, que cette attaque de Pogacar à 100 km de l'arrivée était suicidaire. Il n'a pu que constater finalement les dégâts à l'arrivée dans les rues de Zurich. La saison avait d'ailleurs commencé dans le même registre hein, pour le Slovène qui, à peine le vélo sorti pour sa première course de la saison, gagnait l'Estrade Bianche au terme d'un raid en solitaire de près de 80 km. Bref, la saison de Poggi, si elle n'a pas été ponctuée que de victoires au long cours a été un véritable récital. 24 succès en 56 jours de course. Un seul véritable échec, si l'on peut dire, la troisième place lors de Milan-San Remo en mars, où il n'avait pu se défaire de la concurrence dans le Poggio, dépassé notamment par le sprinter Philipsen, quoi de plus normal sur la Via Roma. En tout cas, si ça n'est déjà fait avec cette année 2024 absolument fantastique, il reste désormais une course à Pogacar pour rentrer un peu plus dans la légende. Le Tour de Lombardie, dernier monument de la saison. Une quatrième victoire consécutive en Italie viendrait conclure une saison où il aurait gagné deux grands tours, le maillot arc-en-ciel et deux monuments, bah ça serait tout simplement du jamais vu.
Du jamais vu, et ce qu'il va gagner, ce sera le week-end prochain, on en parlera évidemment. Merci beaucoup Arnaud Souk d'avoir été avec nous. Marion Bartoli.
Alors moi j'aimerais revenir sur les éléments effectivement de Jérôme, je suis complètement d'accord avec lui. Tout d'abord je pense que Pogacar va tirer les équipes vers le haut parce que la Visma, ils vont pas à chaque fois regarder le Tour de France en disant bah, c'est Pogacar qui va gagner, donc de toute façon ils vont tenter de progresser. Comme Nadal et Federer ont créé Djokovic. Djokovic est créé parce qu'il a vu Federer et Nadal dominer, il s'est dit bah, moi aussi je veux ma place, moi aussi je vois part du gâteau et finalement tu crées quelque chose d'encore plus grand. Mmh. J'aimerais poser une question à Jérôme parce que ça m'intrigue et ça m'intéresse énormément d'avoir ton avis. Pour l'instant, Pogacar n'a jamais participé à Paris-Roubaix. On sait qu'il a un profil très léger, avec un poids léger. Est-ce que tu penses que dans sa carrière, il va jamais tenter de remporter ce monument? Est-ce qu'il va changer son profil? On a vu Van Der Poel perdre énormément de poids pour essayer d'être champion du monde. Est-ce que lui va essayer d'en gagner pour gagner Paris-Roubaix? Et est-ce que du coup, tu crois justement que comme il n'a pas encore tout gagné, qu'il lui reste des courses à gagner, on a parlé de Milan-San Remo et là je te parle de Paris-Roubaix. Il y a encore des choses à aller chercher. Donc justement, ça garde le piment et ça garde cet intérêt de le voir courir.
Il a encore quelques monuments qu'il n'a pas gagné, qu'il n'a pas à son palmarès, notamment la Vuelta, le Tour de Lombardie, ce qui va être chose faite dimanche, si tout va bien.
C'est une grosse fête pour lui, pour Lombardie.
Elle est pour lui, c'est celle qui lui correspond mieux. Paris-Roubaix, il le tentera un jour. Selon les déclarations de son team, hein, de Mauro Gianetti, il le tentera un jour pour aller gagner. Il est un peu comme Bernard Hinault, il est c'est pas plus excité que ça par cette course dont il a peur, mais on a tous peur de Paris-Roubaix. Par contre, il va essayer de la gagner parce qu'il veut rentrer dans l'histoire. Maintenant, comme tu le dis, il y a évidemment des sacrifices à faire pour gagner cette course. Et ce sera, je pense, l'année où il aura peut-être tout gagné ou décidé de pas aller sur le tour, par exemple, parce qu'il a été battu. Parce que dans ce débat-là, Chris, tu en es le témoin. L'an dernier, il n'était pas imbattable. Il a pas tout écrasé. C'est-à-dire que cette année, je pense que le meilleur du monde et de l'histoire du cyclisme est seul au monde cette année. Il est un peu plus fort que l'année dernière et il est seul au monde puisque ses adversaires, que ce soit sur le tour comme Vingegaard ou Evenepoel, ont pas eu la régularité qu'ils avaient avant.
Ce que tu disais, et je vais relancer Christophe parce que pour lui ça a un peu tué l'intérêt des courses et après évidemment je te donne la main Fred, ce que tu disais pour terminer juste avant qu'on réaccueille Arnaud, tu disais mais moi le voir attaquer de si loin,
mais c'est fantastique.
Bah ça me plaît. Est-ce que toi Christophe, sachant qu'au départ
ce panache est fantastique,
le seul intérêt d'une course
c'est de savoir quand il va attaquer.
Je pense que sur le Tour de Lombardie il peut prendre le départ dès le drapeau ABC. Et j'ai même l'impression qu'il s'en amuse, ça, Poggi. Il est tellement au-dessus des autres qu'il doit se lancer des défis pour le motiver. Parce qu'autrement, il sait que de toute façon, quand il va démarrer, il va tous les planter là. Alors, est-ce qu'il pourrait pas se lancer un défi, justement? Moi, je lui lance. Tadej, essaye dans le Tour de Lombardie de partir dès le. Même avant. Tu sais quoi? Dès le départ fictif. Là, il y aurait du panache.
Après, où je te rejoins pas, c'est sur le championnat du monde. Tu peux pas dire ça. Ok, on a attendu. Il a attaqué. Quand il attaque,
mais
il
c'est
attaque
lui pas. Qui fait le suspense à lui tout seul finalement. En attaquant à 100 bornes, ils ont dit peut-être qu'ils vont peut-être.
Mais c'est ça qui est intéressant.
Moi, Jérôme était moi. Le vélo, je n'y comprends rien. Je n'aime pas forcément ça. Et mais qu'est-ce qui m'a plu sur le Tour de France? Alors à part Christophe Cessieux, évidemment, mais c'est justement Pogacar, c'est ses attaques, c'est le fait qu'il soit là, qu'il soit omniprésent. Tu te dis quand est-ce qu'il va attaquer, quand est-ce qu'il va mettre tout le monde sur place. Et l'intérêt pour un néophyte, encore une fois, moi, je ne suis pas aussi
mais rappelle-toi de l'année dernière, Fred.
C'est d'avoir. Honnêtement, moi j'ai adoré ce moment. Et encore une fois, j'étais souvent ici à RMC et tout le monde se levait en disant. Ça y est,
moi qui ai vécu les derniers tours, celui de cet été, mais c'est vrai que de toute façon, moi j'adore Poggi, j'adore sa façon de courir.
Cet été, la plus belle des étapes, c'est celle de Lyon.
L'année dernière, il y a deux ans, l'année dernière, c'est quand le contre-la-montre face à Vingegaard, lorsqu'il est battu, alors qu'on pense qu'il va éclater la concurrence, là il y avait du suspense, il y avait une rivalité entre eux.
Mais qui te dit que Vingegaard va pas revenir l'année prochaine?
J'espère, mais je le souhaite de tout cœur.
Et c'est pas sa faute s'il éclate tout le monde, si c'est le meilleur.
La question, je lui reproche juste du fait qu'aujourd'hui quand tu regardes une course pendant 5 heures et qu'à 100 bornes de l'arrivée t'as le mec qui s'échappe, tu sais que tu peux éteindre la télé, tu reviendras 2 heures après pour le voir franchir la ligne,
passionné,
parce que tu sais qu'il y aura qui
passionné de vélo,
passer d'autre.
La semaine dernière je suis sorti d'ici, on a appris la chute du Julien Alaphilippe, il a fallu digérer, ce que ça m'a fait chier de dire bon, alors déjà un Français en moins, sachant que Pogacar est ultra favori, tu rallumes la télé 2 heures plus tard, Pogacar seul en tête avec une minute d'avance, t'éteins.
Tu vois, toi aussi, t'es d'accord avec moi, il tue l'intérêt pour les courses en ce moment.
Il tue pas l'intérêt parce que pour l'instant, pour le moment,
si toi tu éteins la télé pour revenir 2 heures plus tard, excuse-moi si c'est pas tué l'intérêt.
Parce que je regarde les 50 km, il est parti à 100 bornes. Tu dis, bon, ça y est, c'est fait. Mais encore une fois, sur ce genre d'événement-là,
il y a eu des erreurs des autres équipes aussi.
Exactement. Et
oui,
c'est le cyclisme.
C'est pas parce qu'il est
si ses adversaires baissent les armes. Et là, il y a une guerre psychologique.
Est-ce qu'ils sont en train de les baisser?
Clairement. Ouais. Evenepoel hier abandonne. Je suis même pas sûr qu'il aille autour de Lombardie. Bon, de toute façon, l'autre, il est trop fort. Mais mec, si t'es un champion, t'as pas le droit de dire ça, en fait. Il faut aller dans l'adversité. Vingegaard va se repréparer pour le tour l'an prochain. Pogacar a eu ce passage à vide. L'année dernière, il perd le tour. Mmh. À la sortie du tour, il dit, la prochaine, je vais aller sur le Giro. Ouais. Aveu de faiblesse.
Comme Vingegaard a décidé aussi.
Il n'est pas infaillible. Deuxième image forte cette année au mondial. Tout le monde dit il a ultra dominé. Panique à bord dans les 25 derniers kilomètres où il perd des secondes. Il a plus de bidon. Il loupe ses deux bidons pour un mec qui est tout seul sur un boulevard. C'est quand même pas très logique. Et dans le final, il est limite. Il profite aussi de la guerre Belgique-Pays-Bas.
Ouais.
Dans le final. Si Van der Poel et Van der Poel s'entendent, bien sûr,
il bénéficie aussi de l'appui inespéré d'un coureur de l'équipe de France qui est son équipier tout à l'heure de la saison.
Alors là, carton rouge, évidemment. Mais ça, est-il vraiment un coureur de l'équipe de France ou est-il un coureur plus attaché à son club qu'à son équipe nationale?
On y revient.
Okay. On en fera un débat une nouvelle fois. Kevin nous appelle au 32-16. Bonjour Kevin.
Une fois.
Kevin est là?
Allô.
Ouais, bonjour Kevin, merci d'être avec nous ce matin. Pogacar, tue-t-il l'intérêt des courses? C'est notre débat, vas-y.
Ouais, alors en fait, Jérôme m'a dit beaucoup de choses de ce que je voulais dire. Je vais juste rajouter un dernier argument sur tous ceux que j'avais que j'ai vu. Donc moi, je pense qu'il tue pas l'intérêt. Et le dernier argument que j'avais pour rajouter, c'était qu'il y a un nouvel adversaire en fait aujourd'hui à Pogacar, qui est plus sur un vélo depuis de longues années. Vous avez fait le débat la semaine dernière, je crois, ou hier.
Hier.
C'est Eddy Merckx. C'est linéaire, c'est-à-dire que derrière l'intérêt de chaque course, il y a aussi cet intérêt sur le plus grand, le GOAT, le plus grand coureur de tous les temps. Et en fait, on va comme ça à chaque fois cocher les cases, à chaque fois qu'il gagne une course, pour faire le bilan en fin de carrière. Et il y avait eu le débat, je crois que c'était l'année dernière, où j'avais appelé justement, vous faisiez le débat sur est-ce qu'il peut devenir le plus grand coureur de tous les temps. Et il est dans la course, il n'y a pas de souci. Donc il reste cet intérêt-là en plus. Et puis, la dernière chose que je voulais dire, c'est oui, sur certaines courses, on peut imaginer que Pogacar va gagner et en être quasiment sûr. Mais il y a toujours l'incertitude sur comment il va gagner. Et puis, dernière chose, c'est qu'il est beau à voir courir. C'est-à-dire que même s'il n'y a plus l'intérêt compétitif et sportif, il reste toujours l'intérêt esthétique parce que purée, qu'est-ce qu'il est beau sur un vélo quand il se dresse sur ses pédales. C'est vachement agréable à regarder et c'est toujours impressionnant.
Oui, puis c'est vrai.
Juste finir pour,
vas-y, Kevin.
Pour valider, je change un tout petit peu de sujet, mais ce que disait Christophe sur Mbappé et sur son idée des auditeurs contre-attaque pour proposer des sujets. Franchement, Christophe, je valide à 200% cette idée-là qu'on puisse lancer des sujets aussi de temps en temps. Parce que moi, je fais partie de ces auditeurs qui écoutent l'émission à partir de 9h30 quand on a fini de parler d'Mbappé. Mais bon.
Alors, c'est 9h50 plutôt.
C'est de plus en plus tard. Tu vas pouvoir faire la grâce.
Tu aurais voulu parler de quoi aujourd'hui, par exemple, dis-nous.
Eh ben, tiens, moi, j'aurais fait un sujet aujourd'hui parce qu'on a eu le retour de Paris, enfin, même le premier match du Paris Basket en Euroleague. Et moi, je vous aurais posé la question des GG, ça peut être le débat caché du jour. C'est un PSG Basket version Qatari. Est-ce que ça vous fait rêver?
Ouais, c'est une
Fred, ça fait rêver.
Moi, ça me fait rêver, évidemment. Ça fait des années qu'on en rêve, mais pour l'instant, c'est pas passé. Juste petite précision.
Non, c'est vrai qu'il y a
Paris Basketball, parce qu'il risque de tomber dessus, sinon.
Ouais, non, mais c'est vrai qu'il y a un bon débat basket cette semaine sur le financement. Vous avez vu que la NBA a l'intention peut-être de rentrer dans le game en Euroleague. Oui. Et est-ce que il y aurait peut-être un truc à faire autour du basket.
Merci,
Kevin. Ultra. De l'émission.
Ah, mais Kevin, c'est un cadeau. Il pourrait être autour de la table avec nous. Hein.
Merci, Kevin, d'avoir été avec nous. Et tu vas voir, dans quelques instants, il y aura effectivement un débat caché. Vais-je parler de basket, Fred? Est-ce que je vais parler de basket d'après
non.
toi?
Non.
On ne sait pas.
De golf, peut-être.
Allez, à tout de suite sur RMC. On se retrouve dans quelques instants pour le débat caché.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h32, de retour dans les grandes gueules du sport avec Frédéric Weiss, avec Christophe Cessieux, Marion Bartoli, Jérôme Pinault. Dans une dizaine de minutes, c'est à vous de jouer, les auditeurs. Vous composez le 32-16. Vous n'êtes pas d'accord avec une GG sur un thème du jour? Eh bien, vous venez lui dire. Vous nous appelez et vous êtes en direct avec nous sur RMC. C'est comme ça que ça se passe sur cette radio. Tout de suite, c'est l'heure du débat caché.
Ne leur faites pas confiance, ils vous tendent un piège. Ce sont des bandits de grand chemin.
Les GG ne savent rien et pourtant, elles vont devoir débattre. Je vais vous proposer un sujet maintenant, les GG. Votre guet-apens, votre sujet du jour.
Ah. Alors.
C'est ça.
Oui,
oh, elle peut se retourner. De Mohamed, il avait déjà été si décisif lors des matchs précédents.
Il
et là, qu'est-ce qu'il nous a sorti?
Il a travaillé tout seul, il s'est débrouillé tout seul comme un grand garçon.
C'est fini!
Il ne peut rien nous arriver!
L'équipe de France se qualifie pour la demi-finale de la Coupe du Monde de futsal. C'est grand ce que font les Bleus.
Ah oui, c'est grand ce que font les Bleus. La Coupe du Monde de futsal, c'est sur la chaîne L'Équipe, une magnifique aventure qui a pris fin malheureusement cette semaine avec la défaite des Bleus en demi-finale face à l'Argentine cet après-midi.
Décidément.
À 14h30, l'équipe de France affrontera, c'est vrai, face à l'Argentine, l'Ukraine pour le match pour la troisième place. Un engouement est né autour de ces Bleus. De quoi donner des idées aux sélectionneurs Raphaël Reynaud. C'était cette semaine, une nouvelle fois, sur la chaîne L'Équipe.
L'avantage qu'il y a par rapport au format Jeux Olympiques, c'est qu'en deux semaines, un tournoi peut être organisé sans aucun problème. C'est-à-dire que le temps des JO correspond à un format de tournoi de futsal. Parce que le temps de récupération est plus court, on peut jouer tous les deux jours. Donc ça c'est hyper intéressant parce que on rentre dans ce format Jeux Olympiques.
Vous me voyez venir, évidemment, le sélectionneur qui parle des JO. Ça rentre parfaitement dans notre schéma, c'est fait pour nous. Le futsal doit-il remplacer le foot aux JO? Oui ou non? Jérôme Pinault.
Oui.
Marion Bartoli.
Passe du foot au futsal. Non, on tourne quand même toujours au même
point. Ce sera pas du basket, ce sujet, alors.
Je suis effondrée, qu'est-ce que je te dis? Allez, vas-y, fais du futsal aux JO. Allez, on y va.
Futsal aux JO, très bien.
Oui.
Oui aussi, Christophe Cessieux.
Ouais, pourquoi pas, on a bien fait du rugby à 7.
Et du basket 3-3. Et
Jérôme Pinault, t'avais l'air convaincu là.
Ouais, oui, je suis convaincu parce que pour moi, c'est un sport qui est nouveau, qui est spectaculaire, qui rentre complètement, évidemment, dans le cadre JO, qui fait découvrir des athlètes. Et je suis aussi de ceux qui disent que le foot n'a plus à faire grand chose au JO, quand on voit la comédie que ça a été pour trouver des joueurs pour y aller, même si l'équipe de France a fait un parcours, donc on a un peu oublié le début de l'histoire. Pour moi, le futsal est un sport de spectaculaire qui va complètement dans l'ère JO avec tout ce qui est sport un peu X, dont le skateboard, le BMX, etc. C'est un peu dans cette idée-là aussi, on voit, c'est des joueurs très techniques.
Le côté ça spectaculaire.
Va vite, voilà, très spectaculaire. Donc oui, je suis pour, et je suis sûr que des gamins qui ne regarderaient pas une heure et demie de match au JO, et dans des stades largement vides, j'ai vécu l'expérience, remplirait des salles pour aller voir ça. Ça leur parle plus, ça, ces gamins-là.
Ok, il faut remplacer donc le foot par le futsal.
Il y a aucun intérêt au foot aux Jeux Olympiques. C'est-à-dire qu'en fait, t'es pas dans le calendrier FIFA, donc t'es pas obligé d'amener tes mecs. T'as des moins de 23 ans et trois joueurs de plus de 23 ans. Donc le niveau, il est quelconque, j'ai envie de dire, parce que les meilleurs sont avec l'équipe première. J'ai envie de dire que, effectivement, je suis d'accord avec Jérôme, c'est plus rapide, c'est plus vif, ça
ressemble. Et on découvre plus de nouvelles personnes.
On découvre des nouvelles personnes, on découvre une nouvelle discipline, c'est plus dans l'air du temps par rapport à la vitesse. Moi, je trouve que c'est juste parfait. Et certains pourront dire, on a fait le basket 3-3.
Oh,
basket
j'allais
aussi.
Arriver. Je voulais parler de basket dans ce débat.
Évidemment.
Bien sûr.
Sauf que nous, on n'est pas.
Il y a de la place pour les deux?
Alors, pour nous, il y a la place pour les deux, mais pas pour le foot. Parce que le foot prend tellement de place en soi qu'il n'a pas besoin des Jeux Olympiques. Et il ne les aide pas. Donc, autant que lui et sa propre compétition, et le basket qui est moins puissant.
Vous voulez être deux compètes, mais les autres,
mais non, mais ce que nous, on est beaucoup moins puissants. Nous, on a besoin des Jeux Olympiques.
Tu rigoles, le basket aux Jeux Olympiques.
Oui, justement, c'est un sport majeur, c'est un sport qui draine du monde. Contrairement au foot aux Jeux Olympiques.
Mais tu t'adresses à un autre.
Aux Jeux Olympiques, le foot était plein, mais ça a été plein au JO à
oui,
Paris.
Oui, mais ça, franchement, ça t'a intéressé vraiment foot. Le foot
les gens ont suivi.
Le foot, les matchs de l'équipe de France.
Non, je suis désolée, je logeais pas loin du Parc des Princes, il y avait plein de matchs, il n'y avait pas l'équipe de France qui jouait. Les gens faisaient la file oui, pendant des heures et des heures pour aller voir leur équipe.
En province.
Mais en province, mais en tout cas, ça a intéressé. Et pas que l'équipe de France.
Ça n'a pas intéressé.
Moi, je suis d'accord, mais attention quand même à ne pas dénaturer le sport et ne pas faire. Que certains sports deviennent des sports olympiques alors qu'ils n'ont pas beaucoup d'intérêt en eux-mêmes. Je veux dire, le futsal, oui, évidemment, ça intéresse beaucoup de monde, mais de donner une audience mondiale à des sports comme ça, voilà.
Est-ce que c'est pas le but basket, des JO finalement, de donner une audience à des sports qui n'ont pas autant d'audience
d'habitude. Non, mais il y a 50 000 sports qui existent dans les jeux et qu'on sous-médiatise parce que ça intéresse moins que le foot, que le basket.
On a bien fait du breakdance.
Il y a du breakdance. Que tu préfères du breakdance ou du football?
Non, mais moi, je suis contre. J'étais contre ce genre de programmation de certains sports. Le CIO est en train de faire un peu n'importe quoi en virant certains sports parce qu'ils ne sont pas universel ou parce que il y a pas la mixité totale, il y a autant de garçons de filles qui jouent dans ce sport. Le futsal c'est magnifique.
Je sais pas où on est le futsal féminin par contre. Il y a peut-être un vrai souci. Le futsal féminin, si tu dois intégrer au programme,
mais tu sais que c'est obligatoire.
Je sais pas où il en est.
Si t'as pas autant de filles qui jouent que de garçons, tu peux pas.
Et là, je sais que le futsal pour vivre à Nantes et que dans une ville où il y a un club de première division, un club qui joue à la Champions League,
il y a une Champions League en futsal.
C'est très suivi. Ça fait un carton.
C'est surtout que c'est un sport qui est pratiqué aussi à l'école.
Mais bien sûr.
Parce que pour le coup, il n'y a pas de dispositif pour aller jouer sur des grands terrains. Mais, et puis surtout pour des enfants un peu plus petits, pourquoi pas le futsal? Ton regard, Marion? Parce que c'est vrai que l'équipe de France de foot avec la médaille d'argent, on était fiers et heureux qu'ils aient cette médaille d'argent avec Thierry Henry, mais on se pose quand même la question du.
Non, mais là où je rejoins effectivement mes copains autour de la table, c'est qu'on a vu que pour Thierry Henry, arriver à faire une équipe, c'était quasiment impossible.
Ah mais non, parce que du coup, du Real Madrid, voilà, qui décide de tout.
Tous les clubs leur ont dit, le foot aux Jeux Olympiques, c'est sûr que non. Et en plus, c'était une année avec l'Euro, donc tu avais les compétitions qui sont accumulées. Donc effectivement, pourquoi pas remplacer le foot normal par du futsal? Moi, je trouve pas ça totalement indécent. Par contre, là, je me pose beaucoup de questions sur le futsal féminin parce que je suis pas certaine du tout qu'on soit dans la capacité d'organiser une compétition olympique avec du futsal féminin.
Je suis d'accord, sauf que si t'es aux Jeux Olympiques et que tu le sais, t'as le temps de te préparer, sachant que déjà.
Ouais, mais faut avoir assez de licenciés, faut avoir assez d'équipes.
Ça ne sera pas dans 4 ans.
Mais par définition, ça ne sera pas dans 4 ans.
Ouais.
Donc t'as au moins 8 ans pour travailler.
Comme le basket, je fais aussi référence à ton sport.
Non, mais le padel.
Mais non, mais la question se pose. On sait que le tennis, même si évidemment on a aimé voir Novak Djokovic, est-ce que toi, par exemple, tu dis ok, le tennis, c'est peut-être pas trop les jeux, autant le laisser au padel.
Non, le tennis est totalement associé aux jeux, surtout quand on voit en plus l'image là, avec la seule chose qui manque à Novak Djokovic, remporter cette médaille d'or, l'émotion que ça a procuré, Carlos Alcaraz qui a fondu en larmes, qui a raté raté son US Open, sa tournée américaine, sur la déception d'une médaille olympique. Bien évidemment, quand le tennis est un sport olympique,
mais le paddle... la culture olympique du tennis, elle a quand même été absente pendant 70 ans. C'est-à-dire, le tennis ne faisait plus partie du programme olympique.
Ils l'ont, enlevé puis remis, mais ces dernières années, sur toutes les dernières Olympiades.
Ça a vraiment pris pour toi.
Oui, bien sûr. Oui, Roger,
ça a été. Envie de le jouer, en tout cas.
Exactement. Roger, ça a été pour lui un crève-cœur de ne pas arriver à gagner, à remporter la médaille d'or au tennis. Il a remporté en double, mais pas en simple. Andy Murray, ça a été un des plus grosses lignes de son palmarès, d'avoir deux médailles d'or consécutives aux JO à Londres et à Rio. Donc non, bien sûr que le tennis, c'est un sport olympique. Mais le paddle, je pense qu'il va l'intégrer dans pas longtemps.
Moi, j'ai une idée aussi. Bon, tu faisais la moue quand je disais que le golf n'avait pas pris. Pourquoi ne pas instaurer le mini-golf?
Ben oui. Le mini-golf, alors là, par contre, c'est sélectionnable.
Je vais te dire.
Je crois que peut être sélectionnable aussi.
Le golf
meilleur là-dedans.
En fait, le golf a pris pour ceux qui sont allés là-bas à 50 ans en Yvelines et parfois qui pouvaient découvrir ce sport. Mais à la télé, le golf, et Dieu sait que j'aime ça et Dieu sait que j'aime le regarder. Mais à la télé, pour les noms, pour ceux qui ne jouent pas, c'est trop long. Ça dure 4 heures, ça dure 5 heures. Si tu veux intéresser un public pour les Jeux Olympiques, quand tu vas voir une compétition, quand on fait des émissions en direct, on est sur tous les sites, on va au canoë-kayak, ça dure une minute, ça dure une minute 30, c'est spectaculaire, boum, tu passes à autre chose, tu vas au Grand Palais, tu vas voir l'escrime. Le golf, tu vas le voir, ils n'étaient pas au trou numéro 4, ils sont au trou numéro 5, ça n'a rien changé. Si le golf veut intéresser aux Jeux Olympiques, il faut que le golf. Il faut qu'il y ait un format court, par équipe, pas par individualité, par nation.
Bien sûr.
Tu fais une équipe mixte. Ça se passe sur 6 trous.
Tu dois rentrer tes potes le plus vite possible.
Non, mais il faut envisager un modèle, selon moi,
olympique,
pour intéresser le public qui vient voir les Jeux Olympiques. Donc pourquoi
le modèle 3-3 du basket qui a été formaté pour ça.
Mais exactement.
Mais vraiment, le futsal, c'est long.
Le truc, c'est que
c'est hyper long.
L'ambiance sur tous les matchs de l'équipe de France. Et les matchs des Avengers, même quasiment tous les matchs de basket normal cette année à Bercy, c'était la folie. Pour avoir eu la chance de les faire, mais c'était monumental.
Et Jérôme, j'avais proposé l'autre jour que le cyclocross entre au programme olympique des Jeux d'hiver.
Mais de toute façon, c'est un autre débat. Évidemment, moi je suis pour à 200%. Pourquoi ? Parce que d'une part, c'est un sport d'hiver qui ne se pratique qu'en hiver. C'est hyper spectaculaire. Je voulais lancer un débat aujourd'hui sur le gravel. Va-t-il enlever les gens vont-ils se tourner vers le gravel? Aujourd'hui, c'est championnat du monde de gravel homme. Hier, femme, première, Marianne Vos. Deuxième, Lotte Kopecky. Les deux des cinq meilleures coureuses du monde. Aujourd'hui, championnat du monde de gravel. Ultra favori, Mathieu Van Der Poel. Donc cette discipline est en train d'attirer.
Il y a un format court
qui existe. Le cyclocross, ça dure une heure. Ça se fait l'hiver. Il y a autant d'hommes que de femmes, c'est ultra spectaculaire et il est fort probable, et j'espère qu'on le verra un jour au jeu, très vite, parce que, et malheureusement, des sports de glace et des sports de neige, il y en aura de moins en moins.
Ok, chacun y va de son sport en tout cas, pourquoi pas le paddle, pas le mini-golf.
On a un formidable ambassadeur qui est Steve Chenel pour le cyclocross qui demande ça depuis des années, je pense que ça finira par arriver.
Et donc pourquoi pas le futsal, en tout cas le futsal se prend à rêver un jour d'être au programme des Jeux Olympiques et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui dans l'émission. 11h44, on se retrouve dans quelques instants, c'est à vous de jouer les auditeurs, venez affronter une GG sur un thème du jour.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h47, toujours avec Marion Bartoli, Christophe Cessieux, Fred Weiss, Jérôme Pinault. Dans 10 minutes, restez bien avec nous, les paris RMC avec toute la Dream Team. On vous parlera notamment de la 7e journée de Ligue 1 et de ce match ce soir entre Nice et le Paris Saint-Germain. Mais avant d'accueillir tous nos auditeurs, nous allons accueillir, pour évidemment débattre avec nous, nous allons accueillir Marie. Bonjour Marie.
Bonjour.
Marie, c'est pourquoi ? Pourquoi vous êtes là ?
Pourquoi je suis là? J'ai participé à un jeu.
Ah bon? Lequel?
Ouais. Et je crois que je vais partir au ski.
Alors, je vérifie mes notes. Attendez, je vérifie Marie. On me dit.
J'espère que j'ai bon là.
Alors, c'est pas vous, c'est trompé. C'est Maria en fait.
Pour gagner. Il faut encore répondre à cette question.
Aïe.
Ah mince.
Oui, c'est ça qui est compliqué, parce qu'on pense gagner et en fait on ne gagne jamais.
Ah.
La question subsidiaire, très compliquée. Dans quel club a joué Fred Weiss?
Oula.
Alors là.
Eh bien merci Marie, dommage, vous n'avez pas gagné. Merci d'avoir joué.
Mince.
C'est Limoges.
Vous pouvez faire appel à un ami. L'ami Christophe Cessieux.
Limoges.
Marie, dans quel club a joué Fred Weiss?
L'image.
C'est une bonne réponse. Bravo. Il n'y en avait pas besoin. De toute façon, vous partez au ski. Bravo pour 4 personnes.
Merci beaucoup.
Avec Géolia, c'est au domaine skiable. Les Cybèles, vous allez vous éclater. Merci Marie d'avoir joué avec nous. Je vous ai fait bisquer un petit peu.
Beaucoup.
Mais évidemment, c'est pour vous. On a pris un sacré coup dans son ego.
Pour 4 personnes.
Oui, oui. Mais c'est même pas poser la question à moi. Appelle un ami, on demande à Christophe.
Résidence et club de vacances pour 4 personnes, forfait inclus. Régalez-vous bien. Merci beaucoup, Marie.
Super, merci beaucoup.
De
merci,
votre merci. Fidélité. À bientôt sur
merci,
RMC.
Au revoir.
Allez. Les grandes gueules du sport sur RMC avec les Cybèles. Domaine inoubliable, accessible à tous pour faire le plein d'émotions et d'expériences mémorables.
Allez, c'est à vous de jouer, les auditeurs.
RMC, les grandes gueules du sport et vous.
On accueille Christophe, vous composez le 32-16, vous n'êtes pas d'accord avec une GG, eh bien vous venez lui dire bonjour Christophe.
Bonjour Jean-Christophe, bonjour Marion, Christophe, Fred et Jérôme.
Christophe, tu veux attaquer quelqu'un en particulier?
Alors, Jérôme, gentiment comme d'hab, hein, j'apprécie beaucoup les commentaires de Jérôme.
Jérôme, gentiment, sur quel sujet?
Alors, c'était sur Arthur Fils où je trouvais un petit peu qu'il était, on va dire, un petit peu ambitieux ou présomptueux de le comparer désormais à Yannick Noah.
Eh bien, Christophe, je propose pour les auditeurs qui nous prennent en cours de réécouter ce que disait Jérôme et ensuite tu pourras y aller. On réécoute Jérôme Pinot.
Un potentiel ne fait pas forcément un champion. Et encore plus.
À 5 ans, c'est
et attends, et à 5 ans, alors ça, c'est hallucinant. Et en plus, Marion, là où je te rejoins pas, c'est que tu le dis toi-même, même en ayant tout ça, t'es pas forcément gagné un grand
chose. Non,
Et après, Marion répondait, évidemment, allez vous précipiter sur le podcast. Christophe, on t'écoute.
Ouais, non, je pense qu'effectivement, je pense que les jeunes, désormais, ont acquis une maturité beaucoup plus précoce de ce qu'on attend. J'ai vu dans le reportage qu'Arthur Fils était très encadré, surtout au niveau psychologique. Je pense que Jérôme en parlait également, qu'effectivement, il y avait une préparation psychologique à faire autour de ça. Et je trouvais qu'effectivement, on avait apporté, les JO l'ont permis, l'ont prouvé, qu'on a apporté aussi financièrement une aide autour de ces jeunes pour les faire monter en niveau pour les accompagner. Et justement, je pense qu'il faut se nourrir des expériences et des grands et leur montrer. Par exemple, si je reprends l'exemple d'Alcaraz s'est nourri également des performances de Nadal. Il en avait en exemple et il est venu très rapidement. Et les Espagnols préparent beaucoup plus tôt leurs joueurs et pareil leurs joueurs de tennis. Et pareil en cyclisme. Et je voudrais faire le parallèle en cyclisme avec Alexis Brunel que je suis du Pas-de-Calais, donc je suivais un tout petit peu, qui est champion d'Europe, qui était champion d'Europe du chrono. Vous parliez du récent champion d'Europe du chrono en junior. Il a été en junior en espoir, il a gagné Paris-Tours, il a mené Paris-Roubaix, il a failli le gagner en espoir. Marc Madio, j'aurais bien voulu avoir son avis sur lui.
Il revient.
Il était très très bien. Il revient d'ailleurs, tu parles du championnat du monde de Gravel, il est au championnat du monde de Gravel d'ailleurs. Mm-hmm. Et donc vous voyez, il a un potentiel de fou, etc. Et en fait, il a été un petit peu laissé, on va dire, à Besançon, je pense que Jérôme pourra me confirmer, dans cette équipe B, enfin pas B, mais préparatif pour la FDJ. Et il n'a pas été accompagné, on va dire, financièrement ou choses comme ça. Bon, il a un caractère un peu spécial, si j'ai bien compris. Mais
On a déjà échangé. J'ai là-dessus, Christophe, sur ce sujet-là particulièrement. Ouais. On ne peut pas mettre de côté. Vas-y, je te laisse finir.
Ouais, il se nourrissait de Maggio, c'était son exemple, de Bernard Hinault, il le citait, etc. Il était très nouvelle technologie, il demandait à être conseillé, et il a peut-être manqué de ça et d'entourage, et je trouvais qu'effectivement, en France, peut-être, on passe à côté de ces choses-là, et je pense qu'il faut leur donner de l'ambition à ces jeunes, et leur montrer quels sont les exemples à suivre, mais surtout les accompagner. Et donc, je pense qu'il faut les habituer aussi à leur mettre une certaine pression sur les exemples des anciens, et pareil, dans le Tour de France, où effectivement, il y a une certaine pression, et je pense que Marc Maggio a un peu changé en mettant Monsieur Martinez, par exemple, au Tour de France. Alors, le malheureux, on a un petit peu mis la pression.
La réponse tout de même, Christophe.
Du coup, on finit par être d'accord sur la chose. C'est que moi, je te dis, Christophe, je disais tout à l'heure sur Arthur Fils, qu'il ne faut pas donner tant de temps que cela et qu'un projet sur du si long terme pour un jeune champion, qu'il soit un tennisman ou un cycliste, c'est utopique d'avoir si longtemps parce que aujourd'hui, en France, on a ce défaut-là de dire on a le temps, on va travailler sur du long terme. Non, il faut exploiter, il faut être capable de travailler assez vite et assez fort pour aller chercher des objectifs élevés. Maintenant, pour en revenir et très vite sur le cas Alexis Brunel, il faut aussi que l'athlète soit en phase avec les objectifs qu'il se donne et pas que ce soit des objectifs inatteignables. Donc le cas Brunel est un cas particulier. D'ailleurs, j'ai vu qu'il revenait dans le cyclisme professionnel.
Merci Christophe, j'ai l'impression qu'il appelle à chaque fois qu'il n'est pas d'accord avec Jérôme Pinot. T'as bien raison, mon cher Christophe.
Voilà. J'y sais, je passe ma carte verte, continue sur le golf, il faut imposer le golf au grand Dieu.
On est bien d'accord. Hein. Merci mon cher Christophe.
Non, le mini-golf, il va être meilleur.
Julien nous appelle également. Salut Julien.
Salut, vous allez bien?
Écoute, très bien. Tu vas affronter qui ce matin?
Christophe, si tu veux.
Sur quel sujet ?
Par rapport à Pogacar.
Alors, on va réécouter ce que disait Christophe il y a quelques instants.
Ça marche.
Et c'est pas bon pour l'intérêt d'un sport.
Je vais faire la comparaison
avec Verstappen. Pendant quelques années, la Formule 1 était remontée au sommet de la vague.
Et voilà, il faisait beaucoup de comparaisons et parfois ça peut tuer un peu eh bien, le sens et l'envie qu'on a de regarder une course. Tu n'étais pas d'accord avec lui ?
Non, en effet, et ce qu'a dit Jérôme et puis même l'auditeur tout à l'heure, je suis d'accord avec eux. Moi, j'aimerais dire un truc, il y a quelque chose qui me gêne, c'est que Christophe Cessieux, c'est un suiveur du vélo depuis plusieurs années, c'est une référence quand même, RMC et tout, mais je crois qu'il n'a pas compris ce que c'était que le cyclisme. Le cyclisme, le sport le plus proche, c'est la boxe. C'est-à-dire que l'adversaire, tu dois le mettre KO. Tu souffres, tu dois le mettre KO. Christophe Cessieux, en fait, en disant ça, il nous disait que lui, il n'aimait pas se lever et voir Mike Tyson détruire un mec en 30 secondes, en une minute. Moi, ça me pose un problème.
Ouais, en fait, je trouve ta comparaison un peu
non, mais hasardeuse. Mais c'est pas ça. Ce qu'il veut dire,
la boxe, c'est un adversaire contre un autre. Là, c'est Pogacar contre un peloton entier. Comment tu peux comparer ces deux sports?
La preuve, on a bien vu au championnat du monde, il n'y avait pas un peloton entier. Il se tirait dans les pattes, les mecs derrière. Et chacun pour sa peau. Alors oui, dans les courses comme le Tour et tout, le peloton, il a son importance et tout. Mais sur les courses d'un jour, etc., Jérôme Pinot, peut-être il peut confirmer ou pas.
Vas-y, confirme, Jérôme.
Je prends la défense dans l'exercice physique et la difficulté du sport. Je suis d'accord sur le fait de la compétition. C'est pas du face à face en vélo. C'est très différent de la boxe. C'est pas un combat.
Oui, mais ce que veut dire Julien, c'est que Mike Tyson allait gagner qu'on se levait pas pour le regarder.
Oui. Mais
on savait qu'il allait gagner.
Mais il y a quand même une chance sur deux que Tyson gagne quand il monte sur le ring. Pogacar, il y en a une
Tyson,
sur 200.
Il montait sur le ring, ça durait deux minutes.
Oui, mais il pouvait tuer l'intérêt de la boxe.
Dans rejoins Julien, dans tous les sports, c'est ce que j'en disais tout à l'heure à Christophe, dès qu'il y a domination, c'est soit on s'extasie parce que la concurrence va venir et donc titiller ces gens qui dominent, ou alors on peut s'ennuyer, voilà, c'est tout. Okay.
Très bien, merci beaucoup Julien d'avoir composé le 32-16, à bientôt sur RMC. 11h56, merci beaucoup les GG, Marion, que l'on retrouve ce soir dans Park Polytime, évidemment, à partir de 19h avec Benoît Boutron, merci Fred Weiss, merci Jérôme Pinot, merci Christophe Cessieux. Passez une très très belle journée à l'écoute d'RMC dans quelques instants. Les paris autour de la 7e journée de Ligue 1, notamment avec ce Nice PSG, on vous donne toutes les cotes avec la Dream Team. Restez bien avec nous, je vous embrasse, salut.
Jusqu'à 13h,
les paris RMC.